suffirait de faire
le cadre de l'article qui vient de m'expliquer Madame Mastia est un espace de liberté, un espace de réflexion, un espace de recherche tout à fait indépendant, ce qui est très approprié à ce que je souhaite faire avec vous ce soir, puisque je vous invite à une réflexion libre, indépendante, ouverte, sur un sujet de grande actualité. Et de toute part, on entend parler de l'islam, l'actualité dans les pays musulmans, fait que chaque jour, il est question de l'islam, mais paradoxalement, ces événements qui sont essentiellement des événements politiques, sociaux, économiques, internationaux, sont régulièrement mis sous le titre islam ou musulman, comme si l'islam était à l'origine de tous ces événements, ou pouvait expliquer tous ces événements. C'est la raison pour laquelle il y a une très grande confusion dans les esprits à propos de ce que représente exactement l'islam et aussi de tous les problèmes et de toutes les situations contemporaines que vivent les très nombreuses sociétés musulmanes. Et face à cette confusion entretenue à la fois par les musulmans eux-mêmes, pour le dire, mais aussi par ceux qui rendent compte de ce qui se passe dans le monde musulman, devant cette confusion entretenue par les médias, mais aussi les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des questions politiques, ce qu'on appelle les politologues, qui écrivent beaucoup au sujet de l'islam, ou bien ceux que l'on appelle les islamologues, qui sont des spécialistes de l'islam et qui enseignent dans les universités tout ce qu'il y a trait à l'islam comme religion, comme culture, comme histoire. Tout cet ensemble-là, malheureusement, ou bien renforce la confusion dans laquelle nous sommes, ou bien, en ce qui concerne en particulier les universitaires, développe une connaissance qui est loin du public, qui n'atteint pas le public large, et donc qui n'est pas d'un grand effet pour compenser par un apport scientifique, objectif autant qu'il se peut, sur une question disputée, compenser toutes les imageries et toutes les interprétations de nature idéologique, de nature polémique, qui court au sujet de l'islam. Voilà donc l'état d'esprit qui m'a amené à choisir ce sujet difficile, vous allez voir, penser l'islam aujourd'hui. Penser l'islam aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi penser ? Verbe penser à l'infinitif. Que veut dire ce verbe penser à l'infinitif ? Et pourquoi souligner aujourd'hui ? Voilà, il faut d'abord expliquer les intentions qui se cachent derrière ce titre. Alors d'abord, le mot penser à l'infinitif. C'est prendre la décision d'étudier un sujet donné, qui est un sujet compliqué, et prendre la décision de ne pas participer soi-même en tant que chercheur et penseur aux prises de position, soit dans le domaine de la croyance, de la foi, puisqu'il s'agit d'une religion, soit dans le domaine des choix politiques effectués par les musulmans aujourd'hui, soit aussi dans le domaine des méthodes, étudier les sujets en question. Autrement dit, penser un sujet, c'est le mettre à distance critique. Distance. Créer une distance pour ne pas tomber soi-même dans les excès partisans, dans les choix partisans, pour apporter un peu de lumière, encore une fois, sur un sujet compliqué. Et je donne toujours une comparaison pour le public occidental, français en particulier, pour comprendre l'importance du verbe « penser ». Il y a un livre qui a été publié il y a 3 ou 4 ans par François Furet en France qui s'appelle « Penser la révolution française ». C'est un bel exemple qui me convient tout à fait parce que la révolution française est aussi un sujet extrêmement compliqué. Un sujet qui ne cesse pas de susciter des interprétations divergentes, des discussions très fortes entre les spécialistes, parce que il y a effectivement diverses manières d'interpréter ce grand événement historique, et parce que aussi les contemporains, aujourd'hui comme hier, comme au XIXe siècle, ont toujours tendance à se référer à l'événement de la Révolution comme un modèle explicatif de ce qui se passe de nos jours. Un modèle, par conséquent, dont on pourrait s'inspirer pour notre action politique ou pour notre réflexion aujourd'hui. Autrement dit, la Révolution française est un grand événement historique qui est chargé de symboles et qui n'est pas seulement une suite d'événements politiques, sans suite et sans conséquence. Alors, quand on a un sujet lourd de signification comme celui-là, il est tout à fait essentiel de faire devant lui un acte de pensée, de réflexion critique. Et c'est exactement la même chose qui devient tout à fait nécessaire et urgente en ce qui concerne l'islam. Parce que l'islam aussi est un grand événement historique. Il est là tout à fait à la mesure, en tant qu'événement historique, de la Révolution française. Ou bien à la mesure d'un autre grand événement religieux auquel il est plus approprié de comparer l'islam, c'est l'émergence du christianisme. Le christianisme continue aussi de faire l'objet de toutes sortes d'interprétations, de toutes sortes d'usages, parce que c'est un événement riche aussi de symboles et de significations, et on a toujours tendance à le tirer à soi pour expliquer sa conduite, pour expliquer ses choix moraux, politiques, sociaux, économiques, etc. L'islam a tout à fait cette dimension-là. Or, qu'arrive-t-il aujourd'hui pour cet islam? Il arrive que des millions d'hommes et de femmes, justement, sont en train de s'adresser à l'islam pour donner une signification à leur action politique aujourd'hui, pour donner une signification à leur existence dans les sociétés contemporaines, exactement comme le feraient les chrétiens, ou des juifs, ou des bouddhistes, et ils sont en train de le faire d'ailleurs, les bouddhistes, en Inde, les sikhs, en Inde, sont en train de faire ce même usage. C'est un usage tout à fait légitime, bien sûr. Mais l'inconvénient, ou les inconvénients, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que cette revendication d'islam par les musulmans dans les circonstances d'aujourd'hui, dans les conditions politiques et culturelles d'aujourd'hui, entraîne les musulmans dans une dérive idéologique, politique, qui éloigne les musulmans de la connaissance de l'islam en tant que religion. en tant qu'expérience spirituelle, en tant que valeur morale. Et on a tendance à mettre l'accent sur le côté politique et à oublier le côté religieux, le côté culturel même. Et ceci pour des raisons politiques que nous essaierons d'expliquer par la suite. Voilà pourquoi il devient nécessaire à l'intérieur de l'islam lui-même, aujourd'hui, de faire cet arrêt de la pensée à l'intérieur de l'islam pour dire à des musulmans dans une société musulmane qu'il faut faire attention à l'usage que l'on fait d'une religion et d'un héritage culturel extrêmement riche. Il faut faire d'autant plus attention que cet usage politique qui est fait par les musulmans est utilisé par les sociétés occidentales pour désigner les musulmans aujourd'hui comme des fondamentalistes, comme des intégristes, comme des fanatiques, comme des violents. Tout ça, tout ce vocabulaire existe. Voyez ? Autrement dit, cette utilisation politique de la religion entraîne du côté européen, du côté occidental, la construction d'un imaginaire occidental sur l'islam. Ce qui complique l'affaire, au lieu de l'arranger. Ça la complique parce que, du point de vue politique, il y a des problèmes réels entre les sociétés musulmanes et les sociétés occidentales. Et ces problèmes ne datent pas d'hier. Ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ne datent pas de la guerre du Golfe. Ils datent de très loin. Et on peut remonter l'histoire du contentieux. D'abord entre le christianisme comme religion et comme empire, et l'islam comme religion et aussi comme empire. Ce sont deux empires qui se sont heurtés au cours de l'histoire et qui ont développé une compétition au cours de l'histoire pour le contrôle hégémonique de l'espace de richesse et de civilisation du 7e siècle jusqu'au 19e siècle, sans interruption, l'espace de la richesse, de la circulation des richesses économiques et l'espace de la circulation des idées et de la culture. C'est le monde méditerranéen. C'est l'espace méditerranéen. Et il y a eu, tout au long de l'histoire, encore une fois depuis le 7e siècle, c'est-à-dire l'émergence, pour la première fois dans l'histoire de l'islam, entre 610 et 632, début du 7e siècle. Oui, l'inconvénient d'une conférence comme celui-ci, comme celle-ci qui est ambitieuse et qui veut entraîner à une réflexion critique, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure vous avez les informations élémentaires, par exemple historiques, au sujet de l'islam. Je suppose connu cela. Alors je m'excuse si je ne suppose pas mentionner, parce que, encore une fois, mon ambition, c'est d'essayer de soulever un certain nombre de problèmes sur lesquels nous devons aujourd'hui réfléchir. Je donnerai pour ça de temps en temps quelques indications pour vous mettre à l'aise, au moins du point de vue chronologique. Donc, l'heure actuelle de deux imaginaires, l'imaginaire occidental sur l'islam et l'imaginaire des musulmans sur l'Occident, l'imaginaire des musulmans sur l'Occident qui consiste à dire que l'Occident est une civilisation matérialiste, coupée de toute valeur spirituelle, qui ne tient plus compte de Dieu, car pour les musulmans, comme pour les chrétiens, comme pour les juifs, la religion n'est pas une création humaine, c'est un enseignement de Dieu. C'est une intervention de Dieu dans l'histoire. Ça, c'est la croyance commune à ces trois religions. Et la religion selon ses trois croyances, a fait l'objet d'une révélation, c'est-à-dire d'une intervention verbale, concrète, de Dieu dans l'histoire des hommes. Et ceci, cette conception de la révélation comme descente de Dieu sur terre, soit s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ, selon les chrétiens, qui est venu vivre parmi nous, le Fils de Dieu, soit s'incarnant dans un verbe communiqué par un prophète, et qui est le Coran. Voilà, ça c'est une définition extrêmement forte, qui a habité les esprits pendant des siècles, et qui continue d'ailleurs de les habiter même en Occident. Ça n'a pas entièrement disparu. Il y a encore quelques chrétiens qui survivent à la laïcisation et qui survivent à ce qu'on appelle la modernité. Donc on peut, même en Occident, évoquer, je crois, bien qu'il nous faille le faire avec beaucoup de prudence pour ne pas heurter la nouvelle attitude presque religieuse de ceux qui ne veulent plus entendre parler du mot Dieu. L'entendre parler du mot Dieu, ne veulent plus entendre parler du mot révélation, parce qu'on considère que c'est complètement dépassé et que ça n'est pas approprié à une pensée scientifique, rigoureuse, positive, telle qu'elle s'exerce couramment dans la pensée occidentale depuis au moins le XVIIIe siècle. Vous voyez, voilà des repères pour le conflit qui, comme vous le voyez, cette fois n'est pas un conflit politique. C'est un conflit éminemment philosophique, essentiellement philosophique, parce que c'est un conflit sur le sens même du phénomène religieux dans les sociétés humaines. Toutes les sociétés humaines. Voilà pourquoi je vais m'arrêter un petit peu sur ce point-là, parce que c'est ce point-là qui va conditionner l'implication intellectuelle et culturelle de la pensée occidentale telle qu'elle s'exerce aujourd'hui et telle qu'elle regarde aujourd'hui les autres religions, les autres cultures dans le monde, et parmi elles, la culture et la religion qui fait le plus de bruit aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam et la culture islamique. Car le débat doit se situer précisément à ce niveau-là, par-delà, encore une fois, les contentieux politiques extrêmement importants et qui sont pendants, qui sont loin d'être réglés. Mais il faut commencer par là, pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il s'agit de penser l'islam. Qu'il s'agit d'avoir une attitude critique à l'égard de l'islam, mais critique au sens où l'emploient les historiens qui font la critique des documents avant de les utiliser pour écrire l'histoire. Critique au sens de l'anthropologie contemporaine, qui refuse d'avancer une proposition sur la culture avant d'avoir pris soin de s'installer totalement dans la culture qu'elle vend comme objet de comparaison. Et enfin, bien sûr, critique au sens philosophique. Ça, c'est Dieu, les philosophes nous l'ont enseigné. La critique philosophique s'intéresse à la question du sens, c'est-à-dire ce sens sur lequel les religions se sont prononcées, l'ont défini, et sur lequel les philosophes, au contraire, ne cessent de s'interroger. Ici, il y a une grande différence entre la pensée théologique, qui accepte ce qu'elle appelle le donné révélé, la révélation. dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, il y a le donné révélé. Le donné révélé, il est dans la Bible, il est dans les évangiles, il est dans le Coran. Tout ce qui est dit dans ces textes saints fait autorité pour la raison. Et la raison s'exerce sous cette autorité du texte révélé, sous cette autorité de la parole de Dieu. Ça, c'est la théologie. C'est l'exercice intellectuel pour introduire une cohérence à l'intérieur des textes révélés. Tandis que la philosophie, elle, ne reconnaît pas, a priori, l'autorité de ces textes révélés. Pour le philosophe, ce sont des textes comme d'autres. Et le philosophe s'intéresse à la manière dont ces textes peuvent fournir du sens et le type de sens que fournissent ces textes. Je m'excuse parce que je vois des visages qui ont l'air de souffrir un peu de ce que je dis. C'est un exercice difficile de parler d'une religion. Parce que la religion, toutes les religions, tous touchent à ces questions-là. Et malheureusement, ce qui fait que c'est très difficile pour nous d'en parler comme ce soir en public, c'est qu'à l'école, nous n'apprenons pas ça. À l'école, on ne parle jamais de théologie. On ne sait pas ce que c'est que la théologie. Vous pouvez faire de très hautes études. Vous pouvez aller même jusqu'au niveau de l'université. Il n'y a qu'un seul endroit où vous allez parler, entendre parler de théologie, vous l'avez ici à l'université, c'est le département de théologie. Il y en a un, ici à Genève. Mais en France, il n'y en a jamais un. Parce qu'en France, c'est interdit par la loi de séparation entre l'Église et l'État. Ce qui fait que dans toutes les universités françaises, les Français n'entendent pas parler du tout de cet aspect de la culture et de la pensée qui pourtant a conditionné l'évolution de la pensée européenne pendant des siècles. Eh bien, voilà une décision qui est une décision politique sur un sujet qui relève du sens. J'attire votre attention là-dessus. La décision qui consiste à dire que dans l'école publique, il n'y aura pas d'enseignement de l'histoire de la théologie, évidemment pas de catéchisme, c'est différent. Cette décision-là est philosophiquement grave, parce qu'elle mutile la pensée. Voilà pourquoi, et ça je peux témoigner devant vous, que les divers pays européens, je fais des conférences comme celle-ci, dans beaucoup de pays européens, et chaque fois que j'aborde la question de la théologie, je prononce le mot théologie, et que j'essaye d'avancer quelques concepts comme la révélation qu'on ne peut pas comprendre sans la culture théologique, ben je vois des visages qui se retirent et qui disent ah, qu'est-ce que c'est que ça, on ne connaît pas. Et alors moi, quand je regarde le public, quand je parle, je n'ai pas mon nez dans mon papier, je remarque ça et je suis obligé d'essayer de rattraper le public qui décroche. C'est pour cela que je me permets cet incident sur la théologie et la philosophie. Et justement, parce que en Occident, l'aventure intellectuelle qui a eu lieu depuis le XVIIIe siècle a créé ce que l'on appelle en français, surtout, l'espace laïque, la laïcité, qui consiste dans la séparation complète des domaines. Eh bien, il est devenu difficile de comprendre des conduites et des langages comme ceux que tiennent aujourd'hui les musulmans qui, eux, ne sont pas passés par l'histoire européenne telle qu'elle a eu lieu depuis le XVIIIe siècle. N'ont pas parcouru ce parcours historique de la modernité intellectuelle et continuent encore de parler un langage de type religieux où les termes de révélation, les termes de Dieu, les termes de prophète, les termes de parole de Dieu sont pour eux quelque chose d'immédiatement consommable, si je puis dire. Alors vous voyez, ça crée une dénivellation extrêmement grave. Et cette dénivellation est traitée du côté occidental comme une position de supériorité par rapport à l'islam et par rapport à toutes les cultures qui n'ont pas encore effectué ce partage du domaine public laïque et du domaine religieux exclusivement privé. On a des problèmes graves. Vous voyez, c'est là le nœud de la question que nous avons à traiter et sur laquelle nous avons à réfléchir, comme vous le voyez, d'abord à l'intérieur de la pensée occidentale. Abandonner mon sujet. Et pourtant, j'y suis pleinement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'exerce dans le monde, au niveau mondial, depuis le 19e siècle. C'est ce que j'appellerais l'hégémonie intellectuelle et culturelle de la raison occidentale. On parle surtout d'hégémonie politique et économique. Mais on ne parle guère d'hégémonie intellectuelle. Qu'est-ce que l'hégémonie intellectuelle? Eh bien, d'abord, elle se traduit d'une manière tout à fait concrète et quotidienne par tous les étudiants qui viennent étudier dans les universités européennes et américaines. Combien d'étudiants du monde musulman viennent étudier dans ces universités et retournent chez eux avec dans leur bagage, c'est-à-dire dans leur tête, tous les modèles scientifiques, tous les modèles de la recherche scientifique qu'ils ont appris ici dans les universités. Et ils vont les appliquer à l'étude de leur société, de leur culture, de leur histoire. C'est ce qui se fait depuis le 19e siècle. Et c'est ce qui se fait sous le contrôle intellectuel et scientifique des grands maîtres de l'université européenne et américaine. Et ça, je peux, moi-même, je suis passé par là. Sous le contrôle, lorsqu'on est ici étudiant, on passe la tête devant des maîtres ici et ils nous jugent. Et on est reçu que si on a donné satisfaction aux règles de la discipline. Et ils continuent à nous juger lorsque nous faisons le travail chez nous. Parce que si nous publions un ouvrage, ben, il est soumis à la critique. Donc, cela doit se faire dans la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des comptes rendus scientifiques dans les revues qui vont juger le travail en question. S'il est conforme ou pas. Conforme à l'exercice de la connaissance, au modèle méthodologique, aux définitions de la connaissance qui sont établies ici en Occident. Voilà pourquoi, si je veux réfléchir aujourd'hui sur la révélation dans le domaine musulman, de quelles ressources puis-je disposer? De quelle source puis-je disposer? À quels ouvrages vais-je me référer? À quelles autorités vais-je me référer pour pouvoir étudier ce sujet? Voilà un exemple complet. Je veux penser aujourd'hui, en tant que musulman et pour les musulmans, le problème de la révélation, qui est un problème tout à fait central puisqu'il s'agit de ce fameux Coran auquel constamment tous les musulmans réfèrent, pour vous dire, il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Ça, c'est permis par le Coran, ça, c'est interdit par le Coran. Et pour pouvoir énoncer des règles d'interdit ou de permis, il faut lire le texte. Et lire le texte, c'est quoi? C'est l'interpréter. Et l'interpréter, interpréter un texte, c'est utiliser une grammaire, c'est utiliser un lexique, une sémantique, une rhétorique, une stylistique, une théorie de la métaphore, une théorie de la métonymie. C'est d'utiliser une théorie du mythe qui fonctionne dans les textes religieux. C'est d'utiliser beaucoup de disciplines. Vous voyez-vous, je ne peux pas bouger, car il n'est pas aisé d'interpréter un mot de l'Évangile, ou un mot de la Bible, ou un mot du Coran. Il y a des montagnes et des montagnes d'interprétation depuis que ces livres existent, par les rabbins, par les imams, et par les cadis, et par les théologiens chrétiens, etc. Et ça continue. Alors, je continue mon enquête. De quelles ressources est-ce que je dispose? Pour le Coran, je dispose de beaucoup de ressources écrites qui me viennent de l'histoire de la pensée islamique, des penseurs musulmans qui ont travaillé sur ce sujet sans interruption et produit de très grands ouvrages. Mais ces ouvrages, historiquement, se situent tous entre le 8e et le 12e siècle. Vous m'entendez? Nous sommes au Moyen-Âge, ce que l'on appelle dans l'histoire occidentale le Moyen-Âge, et qui se trouve être historiquement, comme le disent les musulmans, l'âge d'or. Au contraire, vous voyez, ici, c'est différent parce que, effectivement, historiquement, la pensée islamique entre le 8e et le 12e siècle était infiniment en avance dans tous les domaines de la connaissance, intellectuellement et scientifiquement, sur ce qu'on pouvait rencontrer au même moment en Europe et dans toute l'Europe. Ça, c'est un fait historique. Un fait historique, entre parenthèses, qui ne fait pas l'objet d'un enseignement dans les universités. On l'ignore. Voilà pourquoi encore, quand on fait une conférence devant un public, on se trouve devant un livre. Pas de préparation. Il y a un département, un petit département ici à Genève, d'enseignement de l'arabe, je sais. Mais c'est loin d'être suffisant pour couvrir tout le domaine de l'histoire qu'il faudrait enseigner, tout le domaine de la philosophie qu'il faudrait enseigner dans le département de philosophie, tout le domaine de la théologie qu'il faudrait enseigner dans le département de théologie. Un seul professeur, il n'y a qu'un seul professeur à Genève, d'arabe. On ne peut pas couvrir tout ça. Ça n'est pas un omniscient. Alors vous voyez ici aussi une indigence, une impréparation, des lacunes à ce sujet. Bien. Le fait que ma documentation musulmane pour étudier mon sujet est localisée entièrement dans une période médiévale me met aujourd'hui dans la nécessité d'aller utiliser d'autres ressources scientifiques, d'autres ressources intellectuelles qui ne sont pas du tout produites par des musulmans. Ce sont des ressources exclusivement européennes. Car c'est un fait d'histoire. Les musulmans n'aiment pas ça, mais c'est l'histoire, on ne peut pas la refaire. Depuis le 12e siècle, le travail exégétique s'est arrêté. Le travail de réflexion théologique s'est arrêté. La pensée philosophique qui était florissante et forte pendant les siècles que j'ai indiqués a complètement disparu. Elle a disparu. Bon, pourquoi elle a disparu? Il faudrait plusieurs autres conférences pour expliquer tout ça. Je vous ai dit, je me contente de lancer des pistes pour vous faire réfléchir sur des problèmes qui sont considérables et dont on ne se doute même pas. Et les deux côtés, musulmans et européens. J'insiste sur les deux côtés. justement essayer de libérer les esprits de cette perception de l'autre, en l'occurrence de l'islam et des musulmans, avec un sentiment de supériorité du modèle occidental qui, lui, a fait des progrès suffisants pour avoir mis au point une méthode de la connaissance fiable. Fiable au point d'être transférable à toutes les autres cultures. Et les cultures qui ne passent pas par là, eh bien, elles vont continuer de demeurer dans leur superstition, leur mythologie et leur arriération. Il faut sortir de là. Mais c'est difficile et ça demandera du temps. Le fait que, donc, un chercheur musulman aujourd'hui, un penseur musulman aujourd'hui, ne peut entreprendre un travail mineur de réflexion critique sur l'histoire de sa religion, de sa culture, de sa société, sans passer par ses références occidentales, crée évidemment chez les musulmans ce sentiment de frustration, ce sentiment de faiblesse, ce sentiment de domination, de devoir passer par quelque chose à quoi ils n'ont pas participé. Alors, ils le font quand même. Ils le font quand même. Ils ne le font pas suffisamment encore, mais ils le font quand même, heureusement. Et c'est ici donc que la question se complique, car puisqu'il faut nécessairement passer par le modèle occidental de la connaissance, il faut commencer par opérer une critique de ce modèle. Une critique, comme on dit dans notre jargon de professeur ou de chercheur, méthodologique et épistémologique. Des modèles de connaissances mis au point en Occident au sujet de l'étude des sociétés, des cultures, des religions, etc. Et donc, en ce qui concerne, par exemple, l'interprétation de la révélation aujourd'hui, lorsque nous parcourons la bibliographie disponible dans les universités occidentales, que trouvons-nous ? Voilà un exemple. Vous voulez faire une thèse sur une sourate du Coran, comme j'ai des étudiants qui en ont fait, et vous allez évidemment consulter une bibliographie pour vous aider à cheminer dans votre travail. Eh bien, l'état actuel de la bibliographie sur ce sujet-là, précisément, la révélation, est tout à fait insuffisant du côté occidental lui-même. Pourquoi ? Parce que la révélation fait l'objet de beaucoup d'études à l'intérieur de chaque communauté religieuse, pour son propre usage, pour son auto-fondation, c'est-à-dire pour consolider sa théorie de la révélation et renforcer sa foi dans l'orthodoxie de la définition donnée par les autorités religieuses au sujet de la révélation. Vous trouverez beaucoup de livres, beaucoup de thèses sur la notion de révélation selon les catholiques, selon les orthodoxes, chrétiens orthodoxes, selon les protestants. D'ailleurs, vous avez faculté de théologie protestante et faculté de théologie catholique dans plusieurs pays. Je crois qu'ici, vous n'avez qu'une faculté de théologie protestante. Ça dépend des pays. Enfin, vous voyez, ça ne devrait pas être. Du point de vue, justement, que j'essaye de développer devant vous, qui est un point de vue critique, d'histoire comparée des religions, des théologies comme système culturel de la connaissance, et philosophie aussi. Elle ne peut être aujourd'hui étudiée que d'une façon comparée. On doit cesser de les étudier comme on l'a fait jusqu'à présent, y compris pour la philosophie, pour l'autofondation de soi-même, soit dans sa communauté, quand il s'agit de religion, soit dans sa nation, quand il s'agit d'histoire nationale et de philosophie. C'est ainsi qu'on procède encore aujourd'hui. Et ce que je vous dis là est tellement vrai que un ouvrage d'histoire vient d'être publié en France, écrit cette fois-ci et pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, par des historiens européens de la communauté européenne. Alors ça a donné un beau résultat, car pour la première fois, la vision allemande de l'histoire de France est confrontée à la vision française de l'histoire allemande. Voyez un peu ce que ça peut donner. La vision anglaise de l'histoire allemande ou française est confrontée également, et il y a 12 pays, 12 traditions nationales qui ont écrit une histoire nationale d'autofondation, ont confronté pour la première fois une tradition d'histoire qu'on enseigne à nos étudiants avec toute l'autorité de ces lieux où nous sommes, et qui, pour la première fois, révèle ses orientations fondamentalement idéologiques et autofondatrices. C'est un exemple, ça, très éclairant pour l'Europe. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur le modèle européen. Voilà la critique que je vous ai annoncée. Alors maintenant, si nous nous transportons à la théologie, c'est pire. C'est bien entendu pire, parce que là, nous touchons à l'orthodoxie des croyances. Orthodoxie qui est protégée tout au long des siècles par le magistère doctrinal de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, des Églises protestantes, de la mosquée, si je puis dire, par comparaison avec l'Église, de la synagogue, qui donne à l'orthodoxie des définitions. Voilà pourquoi les facultés de théologie fonctionnent séparément dans les universités. Elles ne se mêlent pas aux autres départements. Et elles continuent de produire un savoir qui est contrôlé, encore une fois, par des autorités qui veillent à la reproduction de l'orthodoxie. Vous pouvez consulter, pour vérifier ce que je vous dis, le dictionnaire de théologie chrétienne, publié aux éditions du CERF en 1988, donc il y a à peine 4 ans, c'est récent. Lisez dans ce dictionnaire l'article Révélation. Et vous penserez à tout ce que je suis en train de vous dire, et vous verrez si je vous dis des blagues ou si je vous dis des choses qui doivent cesser d'exister. L'exemple du corps comme phénomène de la révélation n'intervient jamais dans un ouvrage qui traite de ce sujet. Quand on est soit dans une tradition juive, tradition chrétienne, etc. Autrement dit, la cloison demeure étanche. Et vous voyez, j'ai dit le phénomène de la révélation. Je n'ai pas dit cette fois la révélation. Quand je dis le phénomène de la révélation, je pratique l'acte de pensée. Comme je l'ai défini, je mets à distance le phénomène. Pour moi, c'est quelque chose qui apparaît et qui excite ma curiosité, et je ne sais pas encore comment en parler. Quand nous disons le phénomène de la vie, qui continue d'étonner le savant et de mobiliser la recherche des biologistes, de l'anthropologie. Ils font ce que l'on appelle de l'ethnographie et de, au mieux, de l'ethnologie. Car il y a trois sciences à distinguer. Il y a l'ethnographie, qui est le premier pas que l'on fait pour la découverte d'une culture. Par exemple, je veux étudier la société de Tanzanie, ou même les Berbères de l'Atlas, qui sont plus proches géographiquement tout au moins. Eh bien, je dois commencer par apprendre le Berbère. Ça, c'est le premier pas, sinon je ne peux pas rentrer dans la culture. Ça, c'est le pas ethnographique. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps et on n'a pas le temps de poursuivre plus loin. Mais enfin, après 20 ans de séjour dans une tribu, on peut se risquer à quelques interprétations de la culture, de la vision du monde propre à cette culture. Ça, c'est l'ethnologie. C'est le deuxième pas. De l'ethnologie, c'est-à-dire l'interprétation de la vision du monde, de la culture, propre à un groupe ethno-culturel. L'anthropologie s'intéresse à la comparaison entre les différentes cultures sur la base des données accumulées, des données scientifiques précises accumulées par l'ethnographie et l'ethnologie. Vous voyez? Et c'est en cela que la pratique de l'anthropologie est évidemment plus difficile, plus périlleuse, mais vous voyez combien l'anthropologie est appropriée aux citoyens de démocratie que nous sommes en Suisse, dans les pays européens. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de ces étrangers qui viennent du Vietnam, du Sénégal, du Maroc, on ne comprend rien. Et on ne comprend rien, mais ça n'empêche pas de porter des jugements de valeur, de dire où ces gens-là sont différents de nous, ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous, ils ne font pas comme nous, etc., etc. Et on va même jusqu'à employer les mots dans la bouche de grandes personnalités politiques. Ou Oder, par exemple. Voilà, ça c'est un mot ethnographe. Je ne prononcerai pas, du moins sur ce point-là, un anthropologue. Or l'anthropologie, c'est sur l'escalier des immeubles que nous habitons en Europe que ça se pratique. Ça n'est plus, comme je l'ai dit, en Tanzanie, ou dans quelques tribus d'Océanie. C'est à Genève. C'est à Bonn, c'est à Berlin. Alors vous voyez à quel point, ici, nous avons besoin de repenser les programmes de notre système éducatif. Et cette fois-ci, toujours, n'est-ce pas, en Occident. Parce que, si rien ne se passe dans cet ordre-là en Occident, malheureusement, les sociétés qui ont connu des retards historiques, comme c'est le cas des sociétés musulmanes, ne pourront pas faire les progrès absolument indispensables dans le même sens. Car tout ce que je dis, bien sûr, sur l'anthropologie dans les pays d'Occident, je le dis a fortiori et de façon encore plus urgente pour les sociétés musulmanes et pour la pensée musulmane. Seulement là, à l'impossible nul n'est tenu, parce que je n'ai pas eu le temps de vous décrire la genèse historique du sous-développement. La genèse historique du sous-développement culturel. Pourquoi les sociétés islamiques aujourd'hui se trouvent effectivement dans un état d'indigence culturelle? Elles se trouvent coupées Mais de cette documentation que j'évoquais tout à l'heure, pour étudier la révélation, revenir aux grands penseurs médiévaux. Même ces grands penseurs médiévaux ne sont pas aujourd'hui connus par la très grande majorité des musulmans qui cependant se réclament de l'islam pour faire toutes les révolutions politiques auxquelles nous assistons. Ça, c'est une autre contradiction qui est inhérente à la situation historique actuelle des sociétés musulmanes et qui est liée, n'oublions pas, à des relations politiques, économiques avec les pays d'Occident qui interviennent constamment dans l'histoire de ces sociétés jusqu'à maintenant. Et ces sociétés ne produisent pas encore leur histoire d'une façon entièrement libre, elles la produisent toujours en relation avec des stratégies d'intervention de la part des grandes nations. Et on a plusieurs exemples de cette intervention. La géopolitique du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est-à-dire les stratégies d'intervention des grandes nations dans le Moyen-Orient, nous expliquent assez combien l'histoire de ces sociétés est strictement dépendante des lieux où s'opèrent les grandes décisions économiques, les grandes stratégies monétaires, c'est important, et aussi les stratégies de maintien d'un certain nombre de régimes politiques pour maintenir justement ce qu'on appelle l'équilibre international. C'est un mot qui couvre beaucoup d'autres réalités. Je terminerai en évoquant un dernier point. Pour penser l'islam aujourd'hui, il faut penser ou repenser l'histoire de la Méditerranée et du monde méditerranéen. Voilà un point crucial aujourd'hui qui est perdu de vue par les Européens eux-mêmes et qui est également perdu de vue, bien sûr, par les musulmans, surtout ceux qui sont par leur histoire directement rattachés à l'univers méditerranéen. Les Turcs, les Arabes et même les Iraniens sont tournés vers la Méditerranée et non pas vers l'Extrême-Orient. La frontière, à la fois anthropologique, justement, historique et géopolitique, est dessiné par le club l'Indus. À l'est de l'Indus, nous avons d'autres logiques mentales. La logique mentale du bouddhisme n'est pas celle des religions monothéistes. Nous avons des religions sans la révélation. Vous ne connaissez pas la révélation. C'est nous qui sommes en berlicoté dans cette grande aventure. Ce sont d'autres visions et d'autres cultures. À l'ouest de l'Indus, l'iranien est une langue indo-européenne. L'iranien, je parle des iraniens, c'est une langue indo-européenne. Ben oui, on l'oublie. Parce qu'on voit l'Iran, c'est Khomeini. C'est l'horreur. Et ces gens-là n'ont rien à voir avec l'Europe. Surtout pas. Nous, il ne faut pas nous contaminer. C'est un peu ça, hein, j'exagère un peu, mais c'est pour essayer d'exciter toujours une forme de la réflexion. Les religions iraniennes, le zoroastrisme et le manichéisme ont profondément influencé le développement des religions chrétiennes, chrétiennes et musulmanes. L'Iran est au cœur de la culture indo-européenne et de la spiritualité qui s'est développée par le christianisme. Rappelez-vous les luttes de Saint-Augustin contre le manichéisme et les luttes en France contre les cathares. Et en avançant vers l'ouest, nous avons toutes les cultures mésopotamiennes, égyptiennes, anciennes, grecques, assyriennes, la Syrie, araméennes. Jésus lui a parlé en langue araméenne. Il n'a pas parlé en grec. Ce sont les évangélistes qui l'ont fait parler en grec. Ce qui est un événement, là aussi, culturel et historique de la plus grande importance dans les ruptures sémantiques qui interviennent entre l'expression sémitique de la révélation et l'expression gréco-latine de la révélation. Voilà des aventures auxquelles on ne réfléchit pas. Et les chrétiens en ont pris leur parti du fait qu'ils ont reçu le message du Christ, c'est pas n'importe quel message, dans une langue qui n'est pas celle qu'il a lui-même utilisée. Je pose ça comme un problème d'histoire, attention, ça n'est pas du tout une polémique, ou parce qu'il y a des théologiens et des croyants qui pourraient croire que je fais de la polémique pour dire que quoi que ce soit au sujet de la doctrine chrétienne. Non, non, c'est de l'histoire et de l'anthropologie culturelle. C'est tout. Ceci pour vous dire que le monde méditerranéen, avec toutes ses cultures, a été le berceau, l'origine, la référence pendant des siècles de ce qui est devenu la pensée européenne, la culture européenne. Et dans cette pensée européenne, culture européenne, l'islam naît précisément dans cette région qui a pris en charge toutes ces cultures, ces langues et ces cultures, de l'Iran jusqu'à l'Atlantique, fait partie intégrante, historiquement et culturellement, de ce que nous appelons la pensée et la culture européenne. La rupture entre l'islam et l'Europe est une rupture idéologique. Ça n'est pas une rupture culturelle. C'est une rupture due à un rapport de force qui s'est ensuite légitimé par les cultures d'autofondation dont je vous ai parlé. Théologie, philosophie, histoire, etc. Voilà pourquoi il est urgent aujourd'hui, où il y a la construction de l'Europe, l'ouverture de l'espace européen comme espace historique nouveau, non seulement pour l'Europe, mais nécessairement, étant donné la puissance de l'Europe, géopolitique. Donc, le Maghreb. Le Maghreb est méditerranéen. On l'a enfermé dans un arabisme et un islamisme romantique ou idéologique. Mais le Maghreb est méditerranéen. Il a 4000 km de côte méditerranéenne. Depuis Alexandrie, plus de 4000, depuis Alexandrie jusqu'à Tanger. Ça fait partie de la Méditerranée, tout ça. Or, cette Méditerranée se trouve secondarisée, satellisée, non seulement par le développement de l'espace européen nouveau, qui, comme nous le savons, est tiré vers le nord, en particulier par la puissance allemande, et la France suit l'Allemagne pour ne pas se laisser distancer et conserver un peu de sa grandeur, et donc a tendance à négliger elle aussi la part méditerranéenne de sa géographie, de son histoire. Et il y a un phénomène encore plus grave qui secondarise cette Méditerranée, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis, pratiquement, qui contrôlent la région, beaucoup plus que les Européens. Voilà une cassure, qui est une cassure de nouveau historique et culturelle, qui entraîne des conséquences. Et des sous-cassures, si je puis dire. Et si l'on ne prend pas en charge ces problèmes-là, en tant que citoyen, vous voyez tout ce qu'un citoyen devrait connaître pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Un citoyen devrait être informé sur tous ces problèmes-là quand il met un bulletin dans l'urne. Alors je vous laisse apprécier la distance entre ceux qui devraient connaître et ceux qu'il connaît en fait. En tout cas, il est extrêmement important de parler de ces choses-là pour essayer tout de même de sortir d'une histoire d'exclusion réciproque, d'une histoire de domination et de lutte hégémonie, pour entrer dans une histoire de communication culturelle et de solidarité. Voilà l'objet et la tâche que j'assigne personnellement depuis longtemps à cet acte, penser l'islam aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup le professeur Mohamed Hakim, c'était très intéressant. Nous disposons encore d'un moment, une vingtaine, 20 à 30 minutes environ, si vous désirez poser des questions et continuer à partir des thèses que je vous propose le professeur Mohamed Hakim.
Ah oui, une alternative. D'abord, il faut peut-être dire au public qui est Miss Kawai, que vous avez mentionné. Vous le connaissez peut-être, mais le public ne le connaît pas. Miss Kawai est un philosophe d'origine iranienne et qui a vécu au Xe siècle en Iran.
C'est
un philosophe et un historien aussi. D'origine iranienne, mais comme tous les intellectuels iraniens, jusqu'au 11e siècle, il a écrit en langue arabe. Ça aussi, c'est un fait d'histoire. C'est pour cela qu'on peut parler de pensée arabe, au sens où c'est une pensée qui s'est toujours exprimée en langue arabe exclusivement entre le 7e et le 11e siècle. À partir du 11e siècle, les intellectuels iraniens vont recommencer à écrire dans leur langue, en iranien. Donc, à partir du 11e siècle, on peut faire intervenir la pensée d'expression iranienne. Ensuite, il y aura la pensée d'expression turque. Mais les grands classiques de la pensée islamique, les grands textes de la pensée islamique, depuis le Coran jusqu'aux grands textes du 11e siècle, ils sont tous rédigés en arabe. Ce qui pose un grand problème aux Indonésiens, par exemple, aux Chinois, aux Pakistanais, et à tous les millions de musulmans dont l'arabe n'est pas la langue, mais qui, cependant, est une langue de référence pour se référer à ces documents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est
pakistanais, quand ils s'intéressent à l'islam, on est obligé de passer par ces documents. Voilà pourquoi il y a une certaine hégémonie, si vous voulez, on peut dire hégémonie, de l'avant-garde, qui est due à l'histoire. Elle n'est pas due à une décision pour l'imposer, c'est l'histoire qui a été comme ça. Donc, ce philosophe était assez original parce qu'il a pratiqué à la fois la philosophie dans la ligne grecque, aristotélicienne et platonicienne, mais aussi l'histoire. Et une histoire déjà assez critique. Mais la question que vous posez, est-ce qu'un philosophe comme lui, d'autres philosophes, il y a des philosophes bien connus comme Averroès, comme Avicenne, qui ont été étudiés au Moyen-Âge, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, toujours dans la pensée occidentale. On ne peut pas rechercher une alternative chez ces penseurs. Parce que ces penseurs, comme je vous l'ai dit, appartiennent à une période historique qui intellectuellement est révolue. C'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge avait des postulats philosophiques, des connaissances en matière d'histoire, en matière de langue, etc., qui ne sont plus du tout les nôtres. C'est comme si vous disiez, est-ce qu'on peut avoir une médecine alternative à celle d'Avicenne, qui était un grand médecin au XIe siècle. Bon, la médecine a fait des progrès tels qu'on ne peut pas se référer à la médecine d'Avicenne pour créer une médecine alternative. Et c'est là que, justement, gît la difficulté que j'ai essayé de vous expliquer pour les musulmans d'aujourd'hui. Ils ne peuvent se référer à ces textes anciens que pour une documentation, pour savoir ce qui s'est passé, quels sont les problèmes qu'ils ont posés. Mais ils ne peuvent pas utiliser des solutions apportées, par exemple, par Averroès sur le problème de la raison et de la foi. Ça, c'est terminé. Pas plus que les chrétiens, aujourd'hui, ne peuvent se contenter de reprendre les définitions et les enseignements de saint Thomas d'Aquin. Voyez, autrement dit, il y a des ruptures, il y a ce qu'on appelle des ruptures épistémologiques. C'est-à-dire qu'on passe à un autre système de connaissance. Et on passe à une autre attitude de la raison devant la connaissance. C'est entièrement différent.
C'est justement ça que je voulais entendre, c'est le fait que vous ayez fait cette démarche de connaissance, comment vous avez passé à une autre, en utilisant les outils méthodologiques, comment maintenant vous pouvez proposer?
Eh bien, ce que je propose, c'est cette reprise critique de l'ensemble des formes de la pensée, aussi bien en islam qu'en occident. Vous avez bien vu que j'ai mis en question la théologie chrétienne, par exemple, la théologie juive. J'ai mis en question les formes de pensée philosophique. J'ai mis en question les formes, bon, enfin, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais il faudrait le faire, les formes de pensée juridique. J'ai mis en question les formes de pensée politique. Vous voyez, tout cela. Autrement dit, le mouvement de la connaissance se fait aujourd'hui en embrassant le plus possible de données dans les différentes figures et en pratiquant, comme je vous l'ai dit, cette méthode comparatiste pour avancer dans la connaissance des cultures elles-mêmes, mais aussi dans la mise au point de méthodologies nouvelles et de définitions nouvelles qui ne soient pas répétitives à l'intérieur d'une seule culture. Ça, c'est terminé. Même pour l'Occident. Oui. Le problème de... Oui. Le problème de la démocratie dans le Coran. C'est une question qu'il ne faut pas poser ainsi. Parce que si on la pose ainsi, on fait ce que les historiens appellent un anachronisme. Parce que dans le texte coranique, il est question surtout de l'expérience humaine du divin. D'une expérience n'est pas question de l'organisation politique de l'Assemblée. Voyez, pas plus que dans les évangiles. Bien sûr, il peut toucher à des problèmes intéressants de l'Assemblée, mais ça n'est pas l'objectif premier. La démocratie, elle, a besoin d'une démarche politique, de la philosophie politique, ou bien, comme on disait aussi, de la théologie politique. Et cette réflexion n'est intervenue que tardivement. Et le concept de démocratie tel que nous le connaissons maintenant, bien sûr, on dit que les Grecs avaient déjà connu la démocratie à une échelle extrêmement réduite pour une élite. Mais là non plus, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons, nous, sous le nom de démocratie depuis la Révolution française et américaine. La démocratie étant la gestion des affaires de la cité par la souveraineté populaire et par l'émergence de la notion de citoyen où tous ceux qui vivent dans le même espace politique jouissent absolument des mêmes droits. Ça, c'est nouveau et c'est une conquête qui remonte au XVIIIe siècle. On peut trouver encore une fois des éléments, des pierres d'attente d'une telle conception dans les textes religieux anciens. Et par exemple, voilà un exemple important, vous savez que l'Église catholique en France a refusé de souscrire à la Déclaration des droits de l'homme en 1789. De même qu'elle a refusé de souscrire à la Déclaration des droits de l'homme en 1948 aux Nations Unies. Et l'Église catholique n'a souscrit à cette déclaration qu'en 1961 sous Jean XXIII. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique est contre les droits de l'homme. Attention, il ne faut pas faire cette interprétation. Et pourquoi donc a-t-elle refusé de souscrire à cette déclaration? Parce que, dit-elle, d'un point de vue théologique, il y a aussi les droits de la personne en tant qu'elle est liée à Dieu. Oui, autrement dit, il y a toute une dimension de l'homme qui est occultée dans le discours de la déclaration laïque des droits de l'homme et du citoyen. Là, justement, il y a eu la rupture entre le citoyen et la personne. L'Église le prend en charge. Le citoyen est la personne. Seulement, elle n'a pas su trouver les voies nécessaires quand elle avait le pouvoir. Car elle a eu le pouvoir pendant des siècles. Et elle ne l'a pas fait. Voilà pourquoi l'émergence de la conception démocratique du citoyen au XVIIIe siècle est un progrès qui a forcé l'Église à réfléchir sur des conditions concrètes, juridiques, sociales, culturelles, de défendre la notion de personne. Et aujourd'hui, le problème justement se pose différemment pour l'Église et pour la pensée laïque à cause de cette confrontation entre la conception laïque du citoyen et la conception religieuse que partage l'islam de la personne. Car l'islam aussi a refusé, pour les mêmes raisons, de souscrire à la déclaration des droits de l'homme telle qu'elle est connue, inconnue, etc. Oui.
Est-ce que
vous n'avez
pas
trouvé
que
il y a beaucoup d'autres raisons. Il n'y a pas que la méconnaissance ou le manque de culture. Ça joue beaucoup, bien sûr. L'ignorance fait faire aux hommes beaucoup de bêtises. Mais il y a aussi les luttes d'hégémonie, les luttes de pouvoir, les luttes économiques. il y a aussi la violence dans la société, les sociétés. Les sociétés, disent les anthropologues, voyez, sont des systèmes d'inégalité. Et en tant que système d'inégalité, c'est-à-dire ce sont des inégalités bâties, construites, que vous ne pouvez pas supprimer. Et ces inégalités engendrent des rapports de violence, des rapports de refus entre les inégaux. Ce qui est vrai à l'intérieur de la société est vrai dans la société internationale, entre les nations. Ça, c'est une dimension qui compte. Et ce que nous faisons par la culture, c'est essayer justement de limiter les effets de la violence inhérente à la vie en société et à la vie internationale. Mais malheureusement, la culture n'est pas à la mesure du développement de la violence. Et quand je dis violence, il ne faut pas penser uniquement à la violence qui se manifeste dans la guerre, à la violence ouverte, physique. Il y a ce qu'on appelle la violence structurelle. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas. Et que seule l'analyse des inégalités fait apparaître. Mais qui est vécu. Oui.
Comment vous pensez cela en critiquant les jeunes intellectuels qui doivent apporter dans l'absence de la possibilité de retrouver la littérature? Et deuxième question, est-ce que vous insistez beaucoup sur la notion de vu les travaux actuels avec les gens qui sont dans les pieds de l'anthropologie française, surtout de l'Iran, on s'aperçoit que jusqu'à maintenant, les anthropologues sont toujours prisonniers de quelques préjugés.
Oui, oui. C'est vrai. Parce que l'anthropologie, je vous l'ai dit, est consciente qu'elle n'a pas, elle est loin d'avoir conquis toute la maîtrise de ses méthodes, de ses objets d'études, de ses programmes d'intervention et dans les miennes. Et je vous ai dit que sous le nom d'anthropologie, on vous livre en réalité une marchandise ethnographique qui n'est pas entièrement délivrée des préjugés de l'ethnographie du 19e siècle. Alors, je vous ai assez dit que l'anthropologie est encore mal assurée. Nous en avons besoin, mais il n'existe pas, ou presque pas. J'ai eu des contacts ici en Suisse, justement la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre des ethnologues suisses à Lausanne, et on a beaucoup discuté de ce problème, mais ils leur remercient de ça. C'est encore très faible. Alors, en ce qui concerne les pensées d'islam, bien sûr, je critique, et la critique que je fais est une critique constructive. C'est une critique pour avancer. Ça n'est pas une critique pour dénigrer et pour dire que ça ne sert à rien. C'est le contraire. C'est une critique qui est toujours attentive à ne pas reproduire des erreurs. Et donc, je me sers de tous les outils disponibles de nos jours, soit dans la pensée islamique, soit dans la pensée chrétienne, soit dans la pensée moderne, laïque, soit partout où je peux les trouver. Et l'idéal, mais on ne peut pas le faire dans une vie qui est courte. L'idéal, c'est d'introduire la dimension des cultures. Au-delà de l'indus, confronter par exemple la pensée bouddhique et la pensée islamique, il faudra bien le faire un jour, pour introduire une vision vraiment anthropologique du phénomène religieux et pour se libérer de toutes les constructions d'autofondation. ça c'est important ce mot-là, auto-fondation. Parce qu'encore une fois, il s'applique aux communautés religieuses, mais il s'applique aussi aux communautés nationales, à l'égoïsme national sacré, comme dit Michel Debré en France, qui est un nationaliste farouche, qui est contre la construction d'Europe, parce qu'il défend un égoïsme national sacré. Vous voyez comment il s'exprime ? Égoïsme national sacré. Terrible. Et il y en a beaucoup qui partagent ça, hein, il n'est pas le seul. Il n'y a qu'à suivre le débat actuel au Parlement français au sujet de la ratification des accords de Maastricht. C'est extrêmement intéressant de voir la permanence du discours d'auto-fondation. Et quand vous faites de l'auto-fondation, vous excluez nécessairement. Vous ne regardez pas l'autre. L'autre ne peut être pour vous qu'un instrument pour servir la grandeur de votre maison. D'où la violence. Car celui dont vous allez vous servir pour la grandeur de votre maison va s'en apercevoir et il va répondre par la violence. C'est cela le fondamentalisme. La genèse du fondamentalisme est là. C'est une réponse à une histoire. Ça n'est pas l'émergence de l'intérieur d'une religion condamnée dès sa naissance à n'être que fondamentaliste. Oui, il est là. Oui, madame. Mais vous avez déjà parlé, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Il y a quelqu'un là-bas.
J'ai une question. La première concerne une première phase concernant la région méditerranéenne. Vous avez dit que l'Angleterre est une région méditerranéenne. Il y a trop d'habitants qui est enfermé dans un arabe qui est un livre commun.
Oui.
Moi, je n'ai pas compris le mot enfermé, je n'ai pas compris le mot compte.
Eh bien, pour le comprendre, il faut étudier les discours de Nasser, Gamala Abdel Nasser, le leader égyptien, entre 1952 et 1970. Vous voyez, ça fait une longue période. Il est le théoricien de l'Umm al-Arabiya, la nation arabe avec un L majuscule. Exactement comme les leaders du Ba'ath, de l'autre partie arabe, syrien et irakien, qui ont donné les régimes syriens et irakiens actuels, qui sont également partisans de cette théorie d'une nation arabe unifiée depuis le Golfe jusqu'à l'océan, comme on dit. Alors ça, c'est une vision qui ne tient pas compte de l'histoire, qui ne tient pas compte de la réalité culturelle des peuples, de la culture des peuples. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette théorie a échoué historiquement. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que on ne parle plus de la nation arabe avec un N majuscule. On parle des nations arabes particulières. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. Il y en a 22 comme ça. Et le nationalisme local a remplacé le nationalisme global. Vous êtes jeune, vous ne vous souvenez pas des années 1960 en Algérie, où après l'indépendance, les leaders algériens ont reproduit exactement la théorie nassérienne de la nation arabe. Alors vous voyez où ça mène. Les résultats actuels. Oui, madame.
Pour poursuivre avec ça, je pense que le nationalisme arabe, qui en fait a arrêté la pensée islamique, qui l'a empêché de.
Non, non, ça je ne dirais pas cela, non. Non, 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 ça c'est plus compliqué que ça. Il faut dire peut-être, alors, mais ça nous entraînerait trop loin. L'État, nation, parti.
Voilà. L'État, trait d'union, nation, N majuscule, trait d'union, parti avec un P majuscule. Il y a beaucoup de majuscules. Ces majuscules traduisent l'autoritarisme, le monopole du pouvoir et le refus de le partager avec les citoyens. L'arrogance de l'État qui dit et connaît la vérité pour tous les citoyens, exactement à la manière de l'État léniniste, stalinien, titiste. Titiste. On essaie de titiste, non? Tito. Eh oui, Tito c'était le copain de Nasser. Ils pensaient ensemble. Et de Benbella aussi en Algérie. Ça c'était une idéologie qui était très forte. Et vous voyez, c'est un complexe de force. L'État, la promesse de la nation, car la nation est une promesse. Elle n'est pas encore là. C'est une promesse idéologique. Et cette promesse idéologique sert à confectionner la légitimité de l'État. Parce qu'il n'a pas la légitimité par ailleurs, par des voies démocratiques. Et le parti, eh bien, c'est celui qui s'occupe de mettre en œuvre tout ça. L'État et la nation. Mais le parti unique. Pas plusieurs partis. Voilà, ça c'est un phénomène politique, culturel aussi, qui a dominé l'évolution de beaucoup de pays musulmans, pas seulement dans les pays arabes, depuis les années 50 et 60. Et c'est ça qu'il faut étudier pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre les difficultés actuelles. Oui,
simplement, ce conflit islam aujourd'hui ne consiste pas qu'il faudrait une petite approche sémantique d'un terme très souvent employé, que beaucoup de gens ici, c'est le terme jihad.
Ah oui, bien sûr.
Et économiquement, on dit ah, c'est un jihad.
Alors, oui, oui. Ben, je vous ai dit la violence du fanatisme.
Oui, mais je pense qu'il y a une petite approche sémantique qui est super en terme.
Oui, bien sûr, oui, on le fait, le jihad. C'est un mot en réalité qui désigne davantage un effort d'intériorisation spirituelle de l'expérience religieuse avant de désigner l'acte de violence qu'est la guerre. Vous voyez, bien entendu, dans les sociétés, comme je l'ai dit, la violence est toujours là et on peut aussi se servir de cette référence pour défendre justement cette vérité que l'on a intériorisée quand on la sent menacée de l'extérieur. Et voilà comment se fait le lien entre la vérité intériorisée et la lutte pour la protéger quand elle est menacée, encore une fois, par des forces extérieures. Et c'est la définition de la guerre. Alors ici, ce qui est en jeu, c'est cette fameuse vérité spirituelle intériorisée. C'est sur celle-là qu'il faut porter aujourd'hui le regard critique. Car si le juif intériorise à sa manière sa vérité spirituelle, le chrétien intériorise sa vérité chrétienne. Le musulman intériorise la sienne, eh ben, ça fait de la violence. Ça fait des additions de violence. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, dans les théologies, comme je vous ai expliqué, on n'a pas développé le regard critique sur le contenu de ce qu'on nomme avantageusement la vérité spirituelle, sans regarder de près. Il y a beaucoup de choses négatives qui s'engouffrent dans ce que nous nommons, sans esprit critique, la vérité spirituelle. Et parce qu'il y a beaucoup de choses fausses et dangereuses qui s'engouffrent
dans cette soi-disant guerre spirituelle, nous allons gaiement à la guerre. Pour détruire l'ennemi, pour éliminer l'ennemi. Alors le jihad, ainsi défini, et c'est comme ça qu'il faut le définir. Voilà, il se trouve partout. Connaissez une religion ou une société qui ne pratique pas le jihad? Ça a l'air une sorte de neutralité. Oui, c'est fini. Oui.
Okay. Une question cette proposition que vous avez fait en conclusion d'exposer sur retrouver une communauté méditerranéenne avec la population de nord et de l'ouest.
Oui.
Est-ce qu'il existe à votre connaissance déjà des organismes, des sociétés, des culturels qui ont un sens? Peut-être dire deux, trois mois sur des choses.
Oui, l'Italie et l'Espagne, qui font partie de l'Europe, sont en train de travailler activement cette idée.
Merci.
Parce qu'il y a la Grèce, bien sûr. Parce que elles y sont vitalement intéressées. Elles sont loin du leur, elles sont profondément méditerranéennes. Et donc, elles sont en train de faire du travail solide dans ce sens-là. Et c'est pourquoi il y a des espoirs que cela aboutisse. Et ce qui est dommage, c'est que la France, paradoxalement, alors qu'elle est aussi méditerranéenne, bien, elle a un sens, comme vous le savez, de la grandeur, qui fait qu'elle pense davantage à regarder vers l'Allemagne qui lui dispute cette grandeur. Et elle en arrive à oublier une des dimensions de sa grandeur, qui est la Méditerranée. Elle n'oublie pas tout à fait, il y a aussi des choses qui se font en France au sujet de la Méditerranée. Mais mes contacts en Italie et en Espagne et en Grèce, et évidemment la connaissance que j'ai de la France où je vis, me permettent de dire que l'Italie et l'Espagne sont beaucoup plus actives pour cette idée que la France pour l'instant. J'espère que les choses vont changer aussi pour la France. Oui, madame.
C'est la preuve quand même qu'on a fait des plateaux de on se pose des questions. Et personnellement, je ne connais pas le Coran, je n'ai pas eu cette éducation-là, et je voudrais savoir comment est vue la femme dans le Coran.
Oui.
Parce que ce que je vois autour de moi, dans ma interprétation extrême de la femme, je me dis, est-ce que c'est un fait de société? Est-ce que justement dans le Coran, il y a une vision de la femme particulière, comment est vue la femme? C'est la question que j'aimerais bien avoir la réponse et la garantie sur moi.
Oui, oui, oui. Alors là aussi, comment est vue la femme dans le corps? Si nous posons la question ainsi, nous acceptons le postulat, plutôt les postulats. Premièrement, tout ce que dit le Coran fait autorité pour l'éternité. On ne peut pas le changer. C'est ce que ça implique. Deuxièmement, ce que dit le Coran m'est accessible. C'est-à-dire que je peux en donner une interprétation immédiate, transparente et applicable. J'appelle ça des postulats. C'est-à-dire que leur réalisation ne peut pas être démontrée. Parce que le Coran lui-même introduit la question du changement de ce qu'il propose. Il y a une théorie qui s'appelle les versets abrogeants et les versets abrogés. L'abrogation est un terme juridique. Ça veut dire que il y a une loi qui s'applique aujourd'hui, demain je l'abroge et je mets une autre à la place. Ben, le Coran l'a fait. À l'intérieur même du Coran, il y a des abrogations. Ce qui veut dire que je
corps, une reconnaître. Il reconnaît l'historicité du mouvement de société. Et il y a des versets nombreux qui parlent de ça. Donc le postulat, le premier, est faux. Il faut l'écarter. Il ne faut pas continuer à l'utiliser en disant que dit le Coran là-dessus. Deuxième postulat. Qui a autorité pour interpréter le Coran? Pour dire que voilà ce que le Coran dit au sujet des femmes. Qui possède cette autorité? Il faut bien quelqu'un pour faire ce travail. Eh bien, vous avez deux réponses à cela. En théologie musulmane, tout musulman est habilité à lire le Coran et à l'interpréter. Évidemment, il ne peut pas imposer son interprétation aux autres. Et comment donc va-t-on faire pour aboutir à une règle qui soit acceptée par tout le monde? Eh bien, il faut réaliser le consensus autour d'une interprétation. C'est-à-dire l'accord des musulmans autour d'une interprétation. Et comment se réalisera ce consensus? Par le débat libre. Et oui, voilà des choses qu'on ignore. Par le débat libre. Entre les gens suffisamment compétents pour faire ce travail d'exégèse. Ça, c'est la réponse en droit. Quelle est la réponse en fait? La réponse en fait, c'est que l'islam, comme le christianisme, et comme toutes les religions, a été étatisé dès la mort du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, étatisé? C'est-à-dire qu'il est devenu une affaire d'État et non plus une affaire de théologien libre. C'est-à-dire que cette liberté conférée par la théologie est supprimée par l'État. Et l'État norme était un personnel religieux qui va dire la loi au nom de l'État, pas au nom de l'autorité qui s'attache au texte religieux. Et c'est comme cela que se constitue un droit musulman qualifié de musulman et qui est en réalité un code émanant de l'État. Et ce code a été appliqué tout au long des siècles et a donné effectivement cette situation devenue tout à fait intolérable aujourd'hui de la condition féminine dans les pays musulmans. Et Dieu merci, il y a des femmes maintenant comme vous totalement mobilisées pour changer cet état de choses. Parce qu'ils ont conscience maintenant de ce que je suis en train de vous dire. Et refusent, comme ici en Occident, les femmes ont refusé et ont remporté les victoires que vous connaissez à la suite de luttes. Parce que, encore l'anthropologie, on ne peut pas comprendre la question féminine, la condition féminine, sans aller voir du côté des systèmes de la parenté qui ont organisé l'ordre des sociétés, du contrôle de la sexualité dans les sociétés, à travers le contrôle de la sexualité, on contrôle les échanges de femmes qui impliquent des échanges de pouvoir. Et oui, ça c'est l'anthropologie. Alors vous voyez, encore une fois, on en a besoin pour comprendre les mécanismes profonds des sociétés où les femmes, évidemment, ont été plus les victimes que les personnes libres qu'elles sont maintenant enfin devenues à travers des luttes. Et ces luttes sont en train de se poursuivre du côté musulman. Je suis persuadé qu'on la chance, les choses vont changer. Oui, mais bien, alors je crois que... Oui.
J'aimerais bien que vous nous donniez une, si possible, une analyse un peu concrète sur un mot qui représente maintenant une très problématique actuelle, c'est toi, ta guerre du corps. Notamment sur le mot d'intégrisme, ou bien le mot d'intégrisme. Et pour moi, ce mot-là, c'est un mot qui est évoqué par un autre pour massacrer ou bien pour critiquer les musulmans et les islamistes en face de nous.
Oui, et bien vous voyez, la question telle que vous la posez, d'abord elle est juste. Vous avez raison de la poser comme ça, parce que c'est effectivement la manière dont les musulmans perçoivent l'Occident à travers cet événement colossal qu'a été la guerre du Golfe. De même, lorsque les musulmans s'entendent dire à longueur de colonnes de journaux qu'ils sont des intégristes, et lorsqu'on sait que le mot intégrisme recouvre l'obscurantisme, l'ignorance, la violence, le refus de toute humanité, ben, les musulmans se sentent blessés. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas comme ça. Ils ne se sentent pas du tout comme ça. Et on ne leur demande pas dans la vie pour leur coller ce terme d'intégrisme. Il m'est arrivé à moi personnellement, et vous voyez dans quel sens j'exerce ma pensée et qui je suis un peu après tout ce que je vous ai dit. Il m'arrive avec des Européens d'être renvoyé à mon islam intégriste. Moi, je suis intégriste.
C'est quotidien, ça.
Oui, je ne sais pas comment je vous ai paru ce soir. Si je vous ai paru intégriste ou plutôt ouvert à toutes les cultures et à toutes les communications. Et je suis musulman. Alors là, cette question de l'intégriste, telle que vous la posez, c'est un jeune qui la pose. C'est comme ça que les jeunes ressentent les choses. Et alors ils sont en colère. Parce qu'ils ne reçoivent de réponse de nulle part. Ils ne reçoivent pas de réponse adéquate, même pas de l'État, nation, parti, qui est censé les protéger. L'État, nation, parti complique encore leur situation et accentue leur révolte. Parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux, ils s'occupent d'autre chose. Et l'Occident, ben voilà, vous êtes intégriste. Alors, deux mots sur l'intégrisme. Étymologiquement, intégrisme renvoie à l'intégrité. Il s'agit de l'intégrité et de l'intégralité. Voilà ce que veut dire intégrisme d'abord. Intégrité et intégralité de quoi ? Intégrité et intégralité de la révélation, de la parole de Dieu. Je veux me l'approprier pour la vivre dans son intégrité, c'est-à-dire pas souillée, mélangée, triturée, manipulée, dans sa réelle intégrité. Ce qui est un rêve permanent de tout croyant. Deuxièmement, dans son intégralité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de sélection. Appliquer une chose quand elle me convient et laisser le reste où ça ne convient pas. Le croyant, touché par la parole de Dieu, qu'il a intégré par le rite, par la répétition rituelle, qui est importante, veut vivre la parole de Dieu constamment dans tous les instants de sa vie, dans son intégralité et dans son intégrité. Ceci étant dit, est-ce qu'on doit s'arrêter là et dire, mais alors il a raison, c'est bien de l'intégrer, si on peut l'accepter. S'il est ainsi défini, on ne doit pas s'arrêter. Comme pour le Gérard tout à l'heure, il faut demander si cette aspiration, cette exigence d'intégrité et d'intégralité relève d'un rêve romantique, d'un idéalisme outré et d'un irréalisme abstrait du croyant. Ou si au contraire, on peut effectivement réaliser ce qui est ainsi réclamé. Alors la réponse, c'est que c'est une aspiration mythique vers une perfection qui peut hanter tous les humains. Nous rêvons tous d'une certaine perfection, mais la réalisation de cette notion d'intégrité et d'intégralité est rigoureusement impossible dans la vie des sociétés. Alors je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi c'est impossible et pourquoi ça ne peut être qu'un rêve. Et que par conséquent, on peut développer un intégrisme négatif si on proclame constamment cette revendication que vous ne pouvez pas en réalité réaliser. Alors, on retombe dans le même inconvénient qu'avec le jihad. Vous voyez comment fonctionne l'esprit humain ? Il se fabrique des fantasmes et il s'engage pour ces fantasmes comme si c'était des vérités établies et indiscutables. Et ça, c'est, ça se passe aussi pour tout le monde. Tout le monde. Même en Suisse. Bien.
Merci le professeur Mollard-Coum et pour ses participations, pour cet éclaircissement sur cette ouverture suisse. Et nous espérons retrouver nos hommes et les prochaines saisons. Merci à tous. Merci le professeur Mollard-Coum et pour ses participations, pour cet éclaircissement sur cette ouverture suisse. Et nous espérons retrouver nos hommes. Et les prochaines saisons. Merci à tous.